Observez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Et nous sommes toujours là, bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct sur Radio Territoria du congrès HLM à Montpellier depuis le stand du gouvernement pour une émission, la dernière de la journée, mais on sera encore là demain, c'est promis, émission consacrée au zonage des outils de territorialisation de la politique du logement et m'ont rejoint sur le plateau pour en parler deux acteurs de la conception des zonages, Emmanuel Rousselot, bonjour.
Bonjour.
Sous-directeur du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, DHUP, pour le ministère du logement, Pierre-Olivier Faure, bonjour.
Bonjour.
Adjoint à la chef du bureau des études économiques de la sous-direction au sein de la DHUP. Et puis à vos côtés, deux autres acteurs œuvrant au développement de l'offre en logements sociaux et intermédiaires. Julie Bergeau, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Directrice de la mission d'appui SRU à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, à DHUP également. Grégory Fay, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'agence Montpellier Méditerranée du groupe CDC Habitat. Bienvenue à toutes et tous et merci gentiment de répondre à nos questions. Et pour vous qui nous suivez actuellement en direct sur Radio Territoria, je vous rappelle que vous pouvez directement interpeller chacun de nos invités. C'est pas bien compliqué, vous posez vos questions. Et tout à l'heure, avec Hélène Parmentier, chargée de mission à la sous-direction territoire et usage au sein du ministère chargé du logement, on relaiera l'ensemble des questions, Hélène.
Tout à fait, Jean-Baptiste. Nous attendons vos questions sur le chat de la radio.
Voilà, vous êtes les bienvenus. L'accès à un logement abordable et adapté est un objectif clé de la politique du logement qui vise à garantir une égalité de traitement entre territoires et personnes. Cependant, les marchés du logement et les besoins varient selon les régions. Et donc la mise en œuvre de cette politique doit être évidemment adaptée localement, d'où l'importance des zonages. À l'aune des actions déjà entreprises par le gouvernement pour répondre aux enjeux de zonage, comment peut-on encore améliorer ces outils et impliquer davantage les acteurs de l'habitat pour développer localement l'offre en logement abordable ? Emmanuel Rousselot, la première question, elle est pour vous. Avant de commencer à répondre à cette première question, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on entend tout simplement concrètement par zonage et à quoi ils servent vraiment ?
Oui, merci. Les zonages de la politique du logement reposent sur des découpages du territoire selon différentes mailles ou regroupements géographiques et ils poursuivent deux objectifs. D'une part, déterminer l'éligibilité à un dispositif et donc son champ d'application. En gros, si vous êtes dans telle zone, le dispositif s'applique, sinon il ne s'applique pas. Et son deuxième objectif, il s'agit de moduler les paramètres de calcul du dispositif en question. Ça peut être des plafonds de ressources, de prix ou de loyer. Et donc selon le niveau de tension du marché immobilier ou la situation administrative et démographique des communes.
Alors il existe trois principaux zonages nationaux, c'est ça, qui poursuivent des objectifs complémentaires ?
Exactement. De manière schématique, on a tout d'abord le zonage ABC, qui vise à développer l'offre, principalement à travers le soutien à la construction neuve ou en agissant sur le parc existant et sa rénovation. C'est un zonage dit de tension. Il est fondé sur les écarts entre l'offre et la demande de logement, alors qui est mesuré, cet écart est mesuré à travers d'indicateurs de prix, de loyer, de taux d'effort des allocataires, par exemple, d'évolution de la population, de l'emploi ou de la vacance de logement. Il a été créé en 2003. Et le zonage ABC est applicable à certaines aides au logement, notamment en matière de soutien à la location abordable. On parle là du logement locatif intermédiaire, des dispositifs bien connus comme le Pinel, le De Normandie ou du dispositif un peu plus récent qui s'appelle le Locavantage. Il s'applique également au logement social. Il détermine notamment certains paramètres des logements donc financés par un prêt locatif social, dit PLS. Et il s'applique également à l'accession sociale à la propriété. On parle du bail réel solidaire ou par exemple du prêt à taux zéro.
Et on a le zonage de la taxe sur les logements vacants TLV.
Oui, ce zonage dit TLV vise à développer l'offre à travers la mobilisation du parc existant. C'est un second zonage de tension. Il a été créé en 1999 et il est utilisé pour définir les zones d'éligibilité à trois dispositifs fiscaux. Donc on en a parlé, la taxe sur les logements vacants, la majoration facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, dite THRS, la taxe d'habitation sur les logements vacants, la THLV, qui, elle, peut être mise en place en dehors des zones dites TLV. Et il faut savoir que le zonage TLV sert également d'assise à une vingtaine d'autres dispositifs non fiscaux, par exemple le dispositif d'encadrement des loyers ou de changement d'usage dans la réglementation de la location des meublés touristiques.
Et si on s'intéresse au zonage 1, 2, 3 ?
Alors ce zonage 1, 2, 3, qui est le plus ancien, c'est celui qui est utilisé pour le logement social en général. Il vise à soutenir et à développer l'offre locative sociale. Également l'offre privée, à travers la solvabilisation des ménages et la garantie de l'équilibre des opérations de construction des logements sociaux. Il a été défini en 1978, et selon un découpage administratif et démographique, donc par seuil de population. Et c'est donc, comme je disais, le zonage le plus ancien. Et il module le barème des aides personnelles au logement, les APL, et le niveau des plafonds de loyer des logements sociaux qui sont financés en PLAI ou plus. C'est le zonage qui a le plus fort impact budgétaire, puisque les APL représentent près de 16 milliards d'euros d'aide publique.
Et par ailleurs, certains dispositifs présentent un zonage qui leur est propre.
Tout à fait, il y a d'autres zonages, par exemple le dispositif de l'article 55 de la loi SRU sur les obligations de logements sociaux qui fixe tous les 3 ans donc, le seuil de tension sur le parc social de la commune et qui détermine si l'objectif cible d'une commune est de 20 ou 25% de logements sociaux. C'est le cas de ce zonage dit de l'application de la loi SRU qui est mise à jour annuellement. C'est aussi le cas de zonages qui sont définis sur la base de contours administratif et qui conditionne certains paramètres d'éligibilité aux aides. Par exemple, les plafonds de revenus des locataires du parc social, PLS plus ou PLAI, varient en fonction de la localisation selon 3 zones, Paris et les communes limitrophes, le reste de l'Île-de-France et hors Île-de-France. Également, les aides de l'ANA, notamment MaPrimeRénov, peuvent varier selon un découpage en 2 zones, Île-de-France, hors Île-de-France. Donc, comme vous le voyez, ces zonages constituent un enjeu stratégique pour les acteurs publics dans la mesure où ils déterminent les modalités selon lesquelles les politiques publiques sont mises en œuvre.
Alors, Pierre-Olivier Faure, je m'adresse à vous maintenant. La réalité des territoires et les conditions de logement des ménages évoluent évidemment dans le temps. Comment s'assurer justement que les zonages demeurent des rouages efficaces pour la conduite des politiques du logement et quelle est finalement l'action de l'État en la matière tout simplement ?
Oui, vous avez raison, les marchés de l'habitat évoluent. On a des nouvelles dynamiques territoriales. Donc il est nécessaire de réviser régulièrement les zonages pour qu'ils soient en adéquation avec ces réalités. Alors, le zonage qui est le plus ancien, le zonage 1, 2, 3, a été révisé assez peu. La dernière révision majeure, c'est celle de 2005. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est très complexe à mener, cette révision, puisque, comme ça a été rappelé, ça a un impact budgétaire très fort. Voilà. Alors, je voulais aussi rappeler le fait que quand l'État mène à bien ses révisions, elle essaie de le faire toujours au moment opportun, parce que c'est important de le faire pour le bien de l'action publique, et elle le fait toujours en concertation avec les partenaires territoriaux.
Alors, on a parlé du zonage 1, 2, 3. Il y a le zonage aussi TLV sur lequel vous vouliez revenir.
Oui, tout à fait. Alors, comme cela a été dit, il a été créé en 1999. C'est un zonage de tension et il a été d'abord créé sur les zones d'urbanisation continue de plus de 200 000 habitants qui sont tendues, c'est-à-dire qui sont caractérisées par un déséquilibre marqué de l'offre entre l'offre et la demande de logement et qui entraînent des difficultés sérieuses d'accès au logement. Alors, donc en 99, ça représentait 8 agglomérations de plus de 200 000 habitants. Et puis, en 2013, dans la perspective de la mise en place de la loi Allure en 2014, le zonage de TLV a été refondu. C'est-à-dire qu'en fait, il a changé puisqu'on a abaissé le seuil de population des unités urbaines des zones d'urbanisation continue. Donc, il a été abaissé à 50 000 habitants au lieu de 200 000. Ce qui a en fait élargi son périmètre à 28 agglomérations. Alors, c'était l'idée en fait que l'attention ne dépend pas uniquement de la population, il peut y avoir des agglomérations de moins de 200 000 habitants qui sont aussi tendues.
Alors, il a été constaté également une extension du phénomène d'attrition des résidences permanentes.
Oui, alors attrition, c'est un mot un peu scientifique, un peu d'expertise. En fait, ça signifie raréfaction. tout simplement. Donc en fait, ce qui a été constaté là depuis plusieurs années, hein, par tout un tas d'acteurs locaux de l'habitat, les élus locaux, les citoyens, les associations, c'est que en fait, il y avait une extension de l'attention dans des communes hors des unités urbaines, c'est-à-dire les zones d'urbanisation continue de tendue de plus de 50 000 habitants. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde le sait, c'est il y a des communes littorales en Corse qui sont confrontées à un développement du tourisme et à un autre phénomène de renchérissement des prix et des loyers, ce qui fait qu'en fait elles sont dans une situation où elles ne peuvent plus facilement loger leurs résidents. Et donc dans ce cadre, en fait, effectivement, le gouvernement a souhaité réformer une nouvelle fois le zonage ABC, même le refondre, puisque en fait on a affaire maintenant à un deuxième périmètre, c'est-à-dire que la loi de finances pour 2023 a étendu le périmètre du zonage de la taxe sur les logements vacants à des communes qu'on peut qualifier de tendues et touristiques. Alors, c'est pas dans la loi, hein, mais c'est pour par souci de simplicité. Donc, ce sont des communes qui sont hors des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants tendues, mais qui se caractérisent également par de l'attention. Alors, au niveau de critères légèrement différents que la TLV, puisqu'on a alors des critères communs, les prix, les loyers, puisque ça, c'est quand même important qu'on voit la cherté de l'accès au logement. Mais ce qui est spécifique, c'est un critère de taux de résidence secondaire pour qualifier le développement du tourisme.
Est-ce que la réforme, finalement, a répondu aux attentes des élus locaux ?
Eh bien, c'est ce que nous pensons. La DGFiP a publié récemment le bilan des délibérations de la fiscalité locale prise par les collectivités en matière de taxes sur les logements, d'habitation sur le logement vacant et de taxes d'habitation sur résidence secondaire. Alors, il faut savoir, comme ça a été rappelé, que ce zonage TLV permet aux collectivités de majorer le taux de la THRS, donc ce taux de taxe sur les résidences secondaires. Et en fait, cela permet donc de lutter contre ces phénomènes de développement du tourisme. Alors, donc, il y a eu 40% des collectivités qui ont pris ce dispositif pour mettre en place cette majoration. Et c'est quand même satisfaisant parce que maintenant, on a un nombre élevé de communes qui sont entrées dans le dispositif. On a 3697 contre 1140. Alors, donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, on a 3697, ça paraît beaucoup parce qu'en fait, on a multiplié par 3 le zonage par rapport au précédent. Mais en réalité, en fait, c'est que 11% des communes françaises, et avec 11% de communes françaises, on couvre 64% des résidences secondaires. Donc effectivement, je crois qu'en fait, c'est plutôt une réussite et ça a répondu aux attentes des acteurs.
Alors là, on était sur le zonage TLV. Si on parle du zonage ABC, il a quand même fait l'objet de 3 révisions générales.
Oui, alors c'est ça. Le zonage ABC a été créé en 2003. Pour les dispositifs d'investissement locatif. Et ensuite, il a été révisé 3 fois de manière générale, donc en 2006, 2009, 2014. Et puis, depuis 2014, il a été révisé partiellement en 2019, 2022, 2023 et 2024.
Et puis les 2 dernières révisions qui datent d'octobre 2024, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Il y a eu 2 révisions.
Et juillet 2023.
Voilà, en octobre 2023 et juillet 2024.
C'est ça.
Alors, ces 2 révisions, en fait, elles sont nées d'un constat, c'est que le secteur du logement était en crise. Hein, 2023, on sait qu'il y a eu un fort ralentissement de la construction neuve et des difficultés pour le secteur. Donc, à la suite, en fait, du Conseil national de la refondation, le gouvernement a souhaité relancer la production de logements. Et un des outils, quand même, qui est très, très efficace, c'est le zonage. Alors, donc, en fait, l'objectif, c'était de relancer la production de logements, spécifiquement sur le logement locatif intermédiaire et social. On en a parlé, puisque c'est assis sur le zonage ABC. Et puis aussi le logement en primo-accession, parce que le PDZ est assis sur ce zonage. Donc on avait cette logique de, d'une part, reclasser des communes qui connaissaient de l'attention nouvelle, et en même temps un développement du logement. Alors, je peux peut-être parler des résultats ?
Bah, oui, allez-y.
Voilà, donc à l'issue des travaux, on a eu 209 communes qui ont été reclassées en zone A et B1 par la révision d'octobre 2023, dont 153 qui sont intégrées les zones tendues. Ça représente de mémoire plus de 3 millions d'habitants qui sont passés en zone tendue. Et puis en juillet 2024, donc très récemment, c'est 865 communes qui ont intégré le zonage, enfin des zones A bis AB1, dont 688 ont intégré les zones tendues. La différence, c'est qu'on a ciblé davantage les petites communes dans la révision de juillet. Davantage. Voilà.
Merci. Chacun de ces trois zonages a une construction historique, des critères de définition et des objectifs qui lui sont évidemment propres, Pierre-Olivier Faure. Toutefois, une fois ce constat posé, est-ce qu'il est possible de les faire converger, voire de les fusionner pour renforcer leur cohérence et leur lisibilité ?
Oui, effectivement. Effectivement, en fait, l'existence de différents zonages, on en a parlé de trois principaux, ABC, 1, 2, 3, TLV, ça peut obérer la lisibilité de l'action publique, hein, forcément, et puis ça peut générer des incohérences. Donc, parmi les incohérences, en fait, c'est que, tout simplement, on l'a rappelé, les zonages ont été créés et révisés à des dates et selon des critères différents. Donc forcément, ça crée des incohérences dans leur contenu. Et donc ce qui conduit à ce qu'il y ait une complexification de la lisibilité des dispositifs pour les bénéficiaires. Alors, à titre d'exemple, on peut parler des allocataires des APL. Comment peut-on expliquer que deux allocataires des APL perçoivent le même montant d'APL parce qu'ils se trouvent dans la même zone et à des ressources équivalentes ? Alors qu'en fait, ils ne payent pas le même loyer, par exemple s'ils sont dans le parc privé, tout simplement parce qu'ils ne payent pas le loyer, parce qu'en en fait, ils sont dans des zones, des communes qui sont différemment tendues et qu'il y a une disparité des tensions au sein de la zone de APL. Un autre exemple, c'est l'encadrement des loyers. Un bénéficiaire pourrait comprendre plus facilement que l'encadrement des loyers s'applique dans toutes les zones tendues ABC, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, le zonage TLV qui sert d'assise à l'encadrement des loyers ne se recoupe pas complètement avec le zonage ABC.
Et l'opportunité d'une fusion des zonages qui pourrait donc répondre à une exigence de clarté et de cohérence.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce que en fait c'est ce que proposent de plusieurs rapports d'inspection et de contrôle. Hein. L'IGEDD, l'IGF, le Conseil des prélèvements obligatoires ont fait part de leurs propositions en matière de fusion des zonages pour ces raisons de clarification. La principale piste évoquée, c'est de fusionner le zonage TLV, la taxe sur les logements vacants, dans le zonage ABC.
Et la fusion des zonages ABC, justement, est 1, 2, 3 ?
Alors, c'est très complexe, parce que en fait, ça a des impacts budgétaires tels que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
Au final, donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur la fusion ?
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'abord, avant de parler d'opportunité, il faut se mettre d'accord sur les critères. On a vu que c'était des critères différents, mais parfois les critères sont différents parce qu'ils se justifient au regard du dispositif. Il y a une adéquation avec le dispositif. Et si on prend le zonage de la taxe sur les logements vacants, on a dit qu'il y a un critère sur les résidences secondaires qu'on ne peut pas utiliser dans le zonage ABC parce que ce n'est pas un critère de tension à proprement parler.
Alors Emmanuel Rousselot, je me retourne vers vous et je me tourne vraiment vers vous. Conscient des limites des zonages, certains acteurs préconisent de donner plus de marge de manœuvre aux services déconcentrés de l'État et aux collectivités dans la définition des zonages. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la déconcentration ou la décentralisation des zonages. Est-ce qu'il existe déjà des exemples en la matière ? Est-ce qu'on peut envisager pour le futur, pour accompagner les acteurs locaux de l'habitat dans leur politique d'aménagement territorial ?
Oui, on peut tout à fait comprendre le souhait des collectivités de disposer de marge de manœuvre sur les zonages et les barèmes. C'est légitime. Mais il est également tout aussi légitime pour l'État de pouvoir assurer l'effectivité du ciblage des aides publiques vers les zones et les territoires qui en ont le plus besoin, au regard notamment des besoins en logement et également au regard de leur impact sur les dépenses et recettes de l'État. Alors, en matière de déconcentration des zonages, une expérience a été menée en Bretagne. C'est ce qu'on appelle l'expérimentation du Pinel breton. Cette expérimentation, qui a été lancée en 2020 et qui court jusqu'à la fin de cette année, a consisté à permettre au préfet de déroger à certaines modalités d'application du dispositif de réduction d'impôt Pinel. La loi a confié au préfet de la région Bretagne, par exemple, le pouvoir de déterminer les zones d'éligibilité à ce dispositif. Donc ce sont des zones qui ont correspondu à des communes ou des parties de communes. Jusque-là, c'était uniquement par commune. Et qui, ces parties de communes pouvant se caractériser par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logement intermédiaire. Et en concertation avec les acteurs locaux de l'habitat, hein, qui ont été consultés, eh bien, il s'agissait de répondre à des enjeux d'aménagement du territoire, de rééquilibrage territorial entre la métropole rennaise et le reste de la Bretagne, et à des objectifs de lutte contre l'étalement urbain. Donc le préfet de Bretagne a également fixé des valeurs, les valeurs des plafonds de loyer et des ressources à ne pas dépasser. Alors, il y a eu un rapport d'évaluation de cette expérimentation du Pinel breton que la direction, la DHUP a conduit. L'expérimentation avait, en gros, permis d'inclure des territoires qui, initialement, auraient été exclus du dispositif Pinel, alors qu'ils étaient relativement tendus par rapport au reste de la région. Et donc, ça a permis de répondre aux besoins des acteurs locaux. Alors, le rapport a aussi montré que certains des reclassements ou des classements pouvaient poser question, notamment lorsque le loyer de marché est relativement faible par rapport au loyer, au plafond de loyer du parc social. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'espace réel pour un loyer intermédiaire, donc qui est le ciblage du le segment de marché ciblé par le dispositif Pinel. Et globalement, le rapport a également mis en garde contre potentiellement un risque de défaut de maîtrise de la dépense fiscale compte tenu de la méthode qui a été utilisée en Bretagne pour équilibrer les territoires entrants et les territoires sortants du dispositif. Voilà, ce qui a conduit en fait à rendre éligibles des territoires peu peuplés mais avec un fort potentiel d'investissement et donc avec un recours accru à la dépense fiscale associée au dispositif Pinel.
Et pour ce qui concerne la décentralisation des zonages
La décentralisation, donc, c'est le fait de donner la compétence à la collectivité ou aux collectivités. Et ça se heurte à deux principes constitutionnels s'agissant du zonage. D'une part, les collectivités ne peuvent concourir à déterminer l'assiette d'un impôt d'État. Et d'autre part, la décentralisation ne doit pas non plus conduire à rompre l'égalité des contribuables devant l'impôt. Alors pour autant, une fois qu'on a dit ça, les choses évoluent, puisqu'on peut associer, et c'est ce qui est fait, de plus en plus les collectivités aux révisions du zonage. Ainsi, la loi dite 3DS de février 22 a créé le statut d'autorité organisatrice de l'habitat, c'est ce qu'on appelle les AOH. Et c'est un statut qui peut être donné à certains EPCI et qui leur ouvre un droit de consultation lors des révisions du zonage ABC. Et puis, des réflexions sont également en cours pour aller un peu plus loin dans la déconcentration des zonages. Le récent rapport Wörth sur la décentralisation disait qu'il pourrait être reconnu aux collectivités territoriales un pouvoir de proposition du zonage sur la base de critères qui seraient définis par voie législative et réglementaire qu'ensuite le préfet pourrait approuver.
Allez, je me tourne maintenant vers nos invités qui œuvrent plus spécifiquement dans le champ des politiques locales de l'habitat, au développement de l'offre de logements sociaux et abordables. La première question, c'est pour vous, Julie Bergeau. Vous êtes directrice de la mission d'appui SRU à la DHUP. Les zonages et le dispositif SRU, a priori, le lien ne semble pas comme ça tout à fait évident. Est-ce que vous pouvez justement nous éclairer là-dessus, tout simplement?
Oui, pas évident, mais et pourtant, on rappelle, hein, donc SRU, on parle de quoi ? On parle de la production de logements sociaux et abordables et surtout de sa répartition équilibrée sur le territoire. Donc on a effectivement une obligation légale, mais il faut bien avoir en tête que pour sa mise en œuvre, on est évidemment sur les politiques locales de l'habitat qui vont, elles, façonner un écosystème plus ou moins favorable au développement de ce logement abordable. Sur la question du zonage, alors, moi, je m'intéresserai plus particulièrement au zonage ABC, hein, qui est l'actualité la plus récente. Trois éléments que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est quand on parle de zonage, on l'a vu, Emmanuel l'a dit, zonage, c'est une porte d'entrée, effectivement, sur un certain nombre de dispositifs. Mais le fait qu'il y ait cette porte d'entrée, ça ne préempte pas l'ensemble des réflexions locales qu'il peut et doit y avoir sur concrètement comment doit se décliner le déploiement de tel ou tel produit, qu'on parle de bail réel solidaire, de logement locatif intermédiaire. Donc on a notamment avec la dernière mise à jour davantage de territoires qui ont une palette plus grande en fait, hein, d'outils de développement du logement. Mais effectivement, c'est vraiment aux politiques locales territoriales de s'emparer après de ces éléments pour les décliner plus finement. Le deuxième élément, c'est, on l'a vu aussi et l'actualité récente l'a montré sur ABC, ce sont pour partie, certains zonages ont vocation, on le voit, à être mis à jour ou révisés de façon plus ou moins périodique et régulière. Donc il est vraiment crucial au niveau des acteurs locaux de maintenir et de développer un outillage en termes d'observation, de détection des évolutions, puisqu'effectivement un territoire qui n'apparaissait pas tendu à un certain moment peut le devenir. Donc être à l'affût des signaux faibles pour pouvoir, comme l'a dit Pierre-Olivier, au moment de l'association des collectivités aussi à ces différentes révisions, de pouvoir être en mesure d'avoir l'observation et l'argumentaire pour justifier du reclassement de telle ou telle commune. Et puis ma dernière remarque sur le lien entre zonage et là la production de logement social et abordable sur SRU, c'est évidemment pas oublier que le logement c'est un système. Beaucoup d'opérations aujourd'hui sont mixtes et les produits sont bien souvent complémentaires. Et si sur SRU on s'intéresse vraiment au logement social et abordable au sens large, puisque je rappelle que le bail réel solidaire fait partie de ce qu'on appelle le décompte SRU. On met le focus évidemment sur ça, mais on sait ce qui favorise la production globale de logements et aussi évidemment bénéfique pour ce segment. D'autant plus bénéfique quand les politiques territoriales vont façonner, organiser justement ce lien entre les différents types de segments pour que quand il y a un produit qui est un petit peu locomotive, on embarque aussi le logement social, voire très social, qui est parfois évidemment économiquement plus difficile à sortir et à équilibrer. Donc voilà, c'est ça aussi la question des zonages et de la complémentarité des produits sur lesquels je voulais insister.
Eh bien, vous avez bien fait. Il y a un acteur local à côté de vous. Bienvenue chez vous, Grégory. Grégory Faye, vous êtes directeur de l'agence Montpellier Méditerranée de CDC Habitat. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots justement sur ce qu'est la LLI et ses liens sur le zonage justement en question?
Tout à fait. Donc CDC Habitat, c'est bien l'opérateur global de l'habitat d'intérêt public. On intervient en construction et en gestion sur le logement locatif social, le logement locatif intermédiaire dont on va parler, mais également le logement locatif libre, les résidences étudiantes, les résidences personnes âgées, l'accession. Donc vraiment tout le panel des produits pour l'habitat de l'intérêt public.
Et sur la révision du zonage ABC qui a été conçu comme un outil de relance de la production, là, quels impacts observez-vous sur votre territoire d'intervention, sur le LLI?
Alors, le LLI, c'est quoi? Pour le définir, le LLI, c'est le dispositif qui répond aux besoins des travailleurs essentiels, des travailleurs clés du territoire. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, on est 10-15% en dessous du prix du marché libre. Chez CDC Habitat, on a décidé de ne pas mettre en place de frais d'agence. Donc, un candidat locataire qui trouve un emploi sur un territoire, qui vient prendre un logement, il n'aura pas à sortir 3 mois de loyer dès qu'il rentre dans le logement. Ça, c'est aussi un point très positif. Ensuite, on est capable d'accueillir des locataires en CDD, des locataires en CDI période d'essai. Et donc, on est vraiment en capacité de répondre aux besoins de tous ces travailleurs clés, travailleurs essentiels, de la santé, les conducteurs de transport en commun, les gendarmes, les pompiers. Comment on fait le lien avec le zonage? Le LLI, le logement locatif intermédiaire, il ne peut se faire juridiquement que sur les zones A et B1, dont on vient beaucoup de parler précédemment. C'est donc une condition nécessaire. Par contre, ça ne sera pas une condition suffisante. Et là, je reprends les propos de Julie, les politiques locales de l'habitat, mais également le point de vue de l'opérateur. Nous, quand on va étudier un projet, on ne va pas l'étudier à l'échelle de la commune, qui est l'échelle du zonage, on va l'étudier à l'échelle de l'îlot. Si on veut avoir un produit qui sort 10-15% en dessous du prix du marché, il faut se baser sur l'îlot. Si je prends une commune donc sur mon territoire d'intervention, Montpellier, Nîmes, Perpignan, on voit bien qu'il y a plusieurs marchés du logement sur la même commune. Et donc il va falloir vraiment avoir ce point de vue très spécifique à l'îlot. Enfin, je veux insister sur un sujet qui est sensible, c'est que le LLI, c'est bien un outil complémentaire au logement locatif social. On est dans une réponse à une diversité de besoins. Et de plus, pour réaliser du LLI, il faut que dans l'ensemble immobilier, il y ait déjà 25% de logements locatifs sociaux. Donc on est vraiment dans cette diversité de réponses pour diversité de besoins et permettant de créer du coup du parcours résidentiel. Quand on va parler du zonage, j'ai dit que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Donc si on se met dans l'idée qu'en effet, on arrive sur une révision de zonage qui va étendre les communes qui deviennent tendues, ou qui sont devenues tendues et qui du coup le zonage le suit plutôt dans ce sens-là, eh bien forcément on augmente le potentiel de développement du logement locatif intermédiaire. Et nous, CDC Habitat, donc l'opérateur, on va aller surtout regarder les territoires qui étaient classés B2C, dont a parlé Julie Bergeau précédemment, et qui sont devenus tendus parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un opérateur de santé qui s'est développé, il y a une entreprise qui est venue implanter des locaux, et là le marché tout de suite s'est tendu parce qu'il y avait une forte demande de logements et que les logements qui étaient présents ne permettaient pas de répondre à la demande. Et là, tout de suite, on a une possibilité de faire du LLI et on a une réponse à apporter aux travailleurs essentiels. Si je reparle des politiques locales de l'habitat, c'est qu'une zone qui est une commune qui est classée A ou B1, si les élus en place n'ont pas pour projet de développer du LLI pour les travailleurs clés, on ne pourra pas intervenir. Mmh. Donc on a bien deux conditions nécessaires. Le zonage, la volonté des collectivités, des politiques locales de l'habitat et l'équilibre économique des opérations.
Et vous aidez à la relance de la filière de la construction.
Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé de CDC Habitat ces derniers temps dans le cadre du plan de soutien. Donc, qu'est-ce que c'est le plan de soutien ? On peut se dire qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier est en tension, notamment sur la production neuve. Il y a très peu de nouveaux projets qui sortent. Cela est dû notamment à une crise de la capacité de financement des ménages. Et donc, la promotion immobilière est en difficulté pour vendre ses opérations. Qu'est-ce que CDC Habitat a proposé et propose encore aujourd'hui dans le cadre de son plan de relance et de son plan de soutien ? C'est de venir acquérir une partie des logements pour en faire du logement locatif intermédiaire et par ce fait permettre aux promoteurs de dépasser le pourcentage de vente nécessaire pour obtenir les prêts de la banque et du coup démarrer les travaux. Donc on sort du logement locatif intermédiaire, oui. Mais on permet également de sortir tous les autres types de logements, le logement locatif social, oui. L'accession abordable, les BRS, etc. Si je donne quelques chiffres peut-être pour finir, le plan de relance, le plan de soutien 2013 de CDC Habitat, Eric Lombard l'a dit tout à l'heure en plénière, c'est 17 000 logements, dont 11 000 logements locatifs intermédiaires. Et si je reviens sur une échelle plus locale, qui est celle de mon agence, que je connais bien du coup, vous dire que le logement locatif intermédiaire, l'an dernier, j'en ai livré 150. Ouais. Cette année, j'en livre 250. L'an prochain, on poursuit la courbe, hein, ça sera 500 logements. Et si on veut poursuivre sur cette voie, demain, en plus de la volonté politique, il va falloir la formaliser dans les documents d'urbanisme, au niveau des PLH, des PLUI, des PLU. Et là, ça nous donnera les moyens de poursuivre pour répondre à la demande donc, de ces travailleurs essentiels, de ces travailleurs clés.
Merci pour cette intervention. Merci à tous également d'être intervenus. Bougez pas encore. Il y a peut-être des petites questions qui nous ont été laissées par les auditeurs. Et là, je me tourne vers vous, Hélène.
Oui, alors tout à fait. On a plusieurs auditeurs qui concentrent leur questionnement plutôt autour de la possibilité, alors ça a été évoqué tout à l'heure, mais là, de synchroniser les révisions du zonage ABC avec celles du zonage 1, 2, 3.
Oui, alors je vais reprendre la parole pour essayer de donner quelques éléments de réponse aux questions des auditeurs. On a effectivement évoqué la mise à jour et les révisions du zonage ABC. Et pour autant, dans les zones où la tension a augmenté, c'est de plus en plus difficile pour les bailleurs sociaux d'équilibrer des opérations financées donc en PLAI ou en plus, puisque le zonage 1, 2, 3 n'a pas été révisé depuis longtemps. Alors, cette synchronisation des zonages, il s'agit donc de mener les révisions de chacun des zonages en parallèle pour garder la cohérence, tout du moins faire en sorte que les zones qui apparaissent les plus tendues au titre d'un zonage soient également celles qui fassent l'objet de reclassement au titre des autres zonages. Alors, en interne à la direction, on a mené une analyse au printemps de cette année pour regarder quel était l'impact de cette potentielle synchronisation. Donc l'objet, c'était d'étudier le nombre de communes qui étaient en zone 3 et qui étaient pour autant situées en zone tendue, donc au sens du zonage ABC, en zone A ou B1, et puis d'évaluer le coût budgétaire d'un reclassement de ces communes vers les zones 1 ou 2. On se souvient que ces zones sont également le zonage 1, 2, 3, le zonage qui est à la base du montant des APL. Et donc, avant la révision du zonage ABC qui est intervenu en juillet dernier, du coup, 630 communes étaient dans cette situation. Et si on avait procédé au reclassement de ces communes au titre dans le zonage 1, 2, 3, il y aurait eu un coût budgétaire de plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais pour autant, la synchronisation des révisions des zonages a un coût très élevé et dans un contexte de finances publiques tendues que nous connaissons, on peut se poser la question de savoir si on le fait ou pas. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour donner les termes du débat.
Autre question, Hélène ?
Oui, alors qui part d'un constat sur le zonage qui n'est pas suffisamment fin pour refléter toutes les situations de marché. Quels sont peut-être les axes de progrès à espérer en la matière ?
Bon, je me propose de répondre.
Mais allez-y, faites.
Merci. Effectivement, en fait, comme on peut l'imaginer, un zonage, quel que soit son zonage, en fait, le zonage, en fait, il y a forcément un nombre de zones limitées. Donc, par exemple, si on prend le zonage le plus fin qui existe, c'est le zonage ABC, il comporte 5 zones. Et donc, pour 35 000 communes, c'est pas suffisant. Donc, en fait, on a forcément une disparité de la tension au sein des zones. Et donc, de là, en fait, on peut avoir des effets d'aubaine ou des effets désincitatifs sur les dispositifs lorsque, en fait, on n'est pas centré en fait sur le barème. Donc, Pour un exemple très concret, si on a un plafond de loyer qui est trop bas, ben en fait, on a un effet désincitatif, et s'il est trop haut, il y a un effet d'aubaine. Donc, partant de ce constat, il y a eu un exemple de libération du zonage, où on a essayé de s'extraire du zonage. Alors la transformation du conventionnement ANA. Ça, c'est l'exemple qu'on peut mentionner. Le conventionnement ANA, jusqu'en 2022, était porté par le dispositif loué abordable. Alors, qu'est-ce que c'est que le dispositif loué abordable ? C'est un dispositif de soutien à la location abordable dans le parc existant. À la différence du Pinel, hein, c'est dans le parc existant. Le loyer abordable avait défini ses plafonds loyers à la commune selon le zonage ABC. Il n'y avait pas de zonage plus fin à l'époque, on ne pouvait pas faire mieux que ça. Et donc, il y avait ces effets d'aubaine ou ces effets désincitatifs. Alors, dans les faits, c'était quand même bien pensé le loyer abordable parce qu'il y avait une modulation possible des plafonds loyers à la baisse par les collectivités, mais il y avait quand même une certaine limite dans ce dispositif parce que toutes les collectivités n'avaient pas forcément les moyens de mettre en œuvre ces modulations. Et puis ensuite, comme c'était des modulations à la baisse, et ben dans le cas où en fait les plafonds de loyer étaient déjà trop bas, ben en fait c'était plus du tout intéressant. Alors, on a innové avec un dispositif qui s'appelle le Loc Avantage. Ça a été évoqué tout à l'heure par Emmanuel. En 2022, c'est un dispositif qui innove donc sur les plafonds de loyer. Alors, les plafonds de loyer ont été extraits du zonage et sont définis à la commune. C'est ça l'innovation. Donc il y a 35 000 plafonds. Par segment, en fait, il y en a même près de 100 000 parce qu'il y a trois segments, loc 1, loc 2, loc 3. Et donc, on a un plafond de loyer qui est défini à la commune ou à l'arrondissement dans le cas de Paris, Lyon et Marseille. Et en fait, on a corrélé comme ça le plafond de loyer au loyer de marché. Le plafond de loyer est égal au loyer de marché décoté de 15%, 30% ou 45%. Ce faisant, on a en fait l'assurance que le dispositif soit efficient budgétairement. Hein, on ne finance pas des effets d'aubaine. Mais en même temps, comme il y a un mécanisme d'avantage fiscal via la réduction d'impôts, le bailleur s'y retrouve et loue son bien de manière plus avantageuse que sur le marché libre. Et enfin, le locataire, lui, s'y retrouve forcément aussi, bénéficie de cette décote, puisqu'il a l'assurance de payer un loyer en dessous du marché.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci à vous cinq d'être venus sur ce plateau. L'intégralité de cette émission est disponible également en replay, en podcast, sur l'application de Radio Territoria, sur notre site internet, également disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Eh bien, on va se retrouver dès demain. Voilà, 10h30, on évoquera le bail réel solidaire, trait d'union entre accession libre et logement social. On se pose la question justement et on répondra avec nos invités. Merci de votre fidélité et à demain. Salut.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.